Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
3 mois après avoir obtenu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, le film de Jacques Audiard, Dipane, sort mercredi en salle. Dans un instant, les confidences du réalisateur au micro de Stéphane Boutsock. Et puis nous vous offrirons au 3210 des places pour aller découvrir le film. Les audiences télé de l'été, de plus en plus serrées entre France 2 et TF1, notamment au moment où les journaux de 20h, au moment des journaux de 20h, y a-t-il panique à TF1? On verra ça avec Laurent Marsic. Le gagnant 2015 du télécrochet The Voice, Lilian Renaud, nous présentera avec Steven Bellery Promis Juré. Il s'agit du premier extrait de son album.
Promis Juré. Tout ira mieux demain.
Et puis cette fin août est évidemment marquée par la rentrée littéraire. Bernard Lehu nous aidera à faire le tri et nous dira d'ores et déjà quels sont les livres à ne pas manquer parmi les 589 nouveautés. Et puis enfin, un nouveau rendez-vous à ne pas rater. Les Express de Laissez-vous tenter. Chaque matin, Charlotte Arrigoni nous livrera les dernières informations du service culture, des brèves, des indiscrétions et les tweets.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Une palme d'or pour commencer cette nouvelle saison cinéma dans Laissez-vous tenter. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe. Vous nous proposez ce matin une rencontre avec Jacques Audiard, réalisateur du film Dipane, sacré en mai dernier à Cannes, à découvrir sur nos écrans dès mercredi.
Alors avant de parler du film et du cinéma d'Audiard, revenons justement avec lui sur l'après-palmarès. C'était il y a pile 3 mois, le dimanche 24 mai. Question, est-ce que ça change quelque chose dans une vie de metteur en scène et dans une vie tout court d'ailleurs, de recevoir une palme d'or?
Peut-être qu'elles ont changé, mais je ne m'en suis pas du tout aperçu. Et une fois que je suis sélectionné, je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que le job est fait. J'en parle un peu vulgairement, mais Cannes, c'est un marché, c'est le cinéma va être vu par des gens d'ailleurs. Voilà, c'est, pour moi, c'est ça. Alors, ce qui se passe après, ça m'advient. C'est une surprise. Alors, c'est une surprise dont je jouis, qui est un peu irréelle. On a le sentiment, tout à coup, c'est comme si vous étiez intronisé dans un club relativement fermé de cinéastes dont vous avez vu les films, que vous avez incroyablement admirés. Est-ce que vous en faites partie ou pas? Moi, j'ai le sentiment de ne pas en faire partie. Donc, c'est ça, peut-être qu'il va falloir ajuster, j'en sais rien. Mais d'abord, je n'ai pas le sentiment de mériter. Oui, moi, je fais des films parce que c'est un débat, je crois, assez personnel, assez individuel entre moi et le cinéma. Comme le cinéma étant le vecteur avec le monde. Donc, la palme, c'est un événement important, mais qui ne change rien pour moi.
Une palme, ça ne change rien, vient de vous dire Jacques Audiard. Stéphane, sauf qu'il entre évidemment dans un petit club très fermé et très privé.
7 réalisateurs français seulement ont obtenu la Palme d'Or. Mais n'allez pas parler à Jacques Audiard d'appartenance à une quelconque fraternité.
Alors, c'est peut-être la notion de famille ou de club ou de... On pourrait décliner comme ça, puis après on arriverait à Chapelle, et puis voilà. Je ne veux pas en faire partie, mais cela dit, après, je me sens incroyablement français dans le cinéma que je fais. Ça veut dire être quand même, avoir un rapport assez étroit, soutenu et continu avec la cinéphilie, avoir un goût suffisamment formé pour pouvoir aimer des choses extrêmes, d'un bout à l'autre de l'étagère, et voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Dipane est sur le papier sans doute le moins français des films d'Audiard. Il réussit à nous intéresser au sort d'un exilé politique clandestin sri-lankais venu chez nous fuir la guerre civile dans son pays, en se fabriquant au passage une fausse famille et en devant affronter un autre conflit, celui d'une banlieue ravagée par les gangs où il décroche un boulot de concierge. Film dense, magistral, hanté par la violence et aussi, c'est important, par l'amour, comme dans Un prophète, De rouiller d'os ou De battre mon cœur s'est arrêté. Encore une fois, c'est l'histoire d'un personnage qu'il doit apprendre à devenir ce qu'il n'était pas destiné à être. Après les succès publics et critiques de ses derniers films, Jacques Audiard poursuit sa route mais rebat les cartes en donnant la vedette à des acteurs totalement inconnus, s'exprimant en plus dans une langue qui l'est tout autant, le tamoul.
C'est pas aussi programmatique que ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même, pour moi, assez souvent l'idée d'aller vers des endroits psychologiques, des personnages, donc des acteurs, certains types d'acteurs, des lieux, des langues, là c'est aussi des langues, qui sont différentes. Je ne veux pas parler de travail d'exploration, mais ça a à voir un peu avec ça. Et puis je pense que j'appartiens à une génération, mes parents, enfin nos parents, nos grands-parents aussi. Le cinéma a informé sur le monde. pâté le titre, que quand je vais à New York, la ville est merveilleuse, mais sans surprise. Des gens me l'ont montré à différentes époques. Si on veut s'informer sur qu'est-ce que c'est que la Troisième République, il faut voir les films de Pagnol. Donc moi, je pense que je dois avoir au fond de moi encore cette idée de la fonction du cinéma.
Alors Jacques Audiard parlait du Monde. Il faut rappeler, Stéphane, que c'est aussi l'un des cinéastes français aujourd'hui les plus connus à l'étranger.
Oui, programmé dans tous les grands festivals, récompensé souvent, vu, ce qui est le plus important, par le public, on le rappelle, nommé aux Oscars pour Un prophète. Je vous parie, tiens d'ailleurs, que ce sera le candidat de la France cette année pour la statuette du meilleur film étranger en février prochain, avec de belles chances de l'emporter. On devrait savoir ça courant septembre. Oui. Jacques Audiard assume ce rang qu'il ne revendique pas et prend les choses comme à son habitude, c'est-à-dire avec ironie et distance.
Je suis assez conscient de ce que suppose un film. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma. Le cinéma, il y a une grande impureté dans le cinéma. C'est à la fois de l'art et de l'argent, de l'industrie. Je suis très heureux, très intellectuellement satisfait que mes films soient vus ailleurs que dans la nation mère. Quoi, voilà. Ça, j'en suis très très heureux. Et je cracherai certainement pas dans la soupe. Après, il y a des choses merveilleuses. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais été reçu par le comité des Oscars, où alors là, il y a des mythes vivants qui sont là, mais tellement gentils, tellement aimables, qui vous servent à boire, qui vous parlent très, très aimablement, comme si vous étiez un des leurs. C'est tout ça charmant.
Alors, entre la Palme d'Or fin mai, la sortie de Dipane mercredi et la promotion mondiale qui s'annonce sans doute donc jusqu'aux Oscars, Jacques Audiard essaye, je dis bien essaye, de penser à la suite.
Surtout, il va falloir que je me remette au travail, c'est ça qui est difficile. Mais vous savez, la récompense que j'ai reçue à Cannes, ça m'a, du jour au lendemain, alors que c'était pas mon emploi du temps, mais ça m'a donné 2 mois de vacances secs. J'en suis pas revenu. Si, là, je suis revenu des vacances, justement. Et ça, tout à coup, deux mois à lire, 2 mois à ne rien faire, à ne pas penser à la suite. J'ai trouvé ça vraiment féerique. Ben, faut que je ressorte les rames et je vais réécrire un scénario que j'ai écrit il y a un an, la western, les Sister Brothers. C'est un roman que je conseille vivement, qui s'appelle Les Frères Sisters, de Patrick DeWitt. C'est un très bon livre. Formidable, c'est un western. Il faudrait que je retourne vraiment à l'écriture pour savoir un peu plus comment ça se passe. Là, je suis un peu dans le brouillard.
John C. Reilly, qui est un comédien, un grand rouquin, qu'on a vu notamment, extraordinaire comédien, une vraie gueule, un peu la Gene Hackman, qu'on a vu dans Gangs of New York, Chicago Aviator ou récemment dans Carnage de Polanski, jouera un des rôles principaux des Sisters Brothers, ou des Frères Sisters donc, ce qui s'annonce comme le prochain film très attendu, un western, rendez-vous compte, prochain film de Jacques Audiard.
Alors en attendant Dipane, la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes qui sort au cinéma mercredi, nous vous offrons des places pour aller le découvrir, et il faut pour cela répondre à la question que vous pose ce nonobstantus, le chant Stéphane.
Jacques Audiard est-il le 7e ou le 10e réalisateur français à recevoir une Palme d'Or?
On l'a répété 3 fois,
oh,
je crois.
Pas à peu près.
C'est bien cela. Réponse au 32-10. Et ce jingle nous annonce les audiences de notre week-end télévisé. Avec vous, Isabelle Morini-Bosque.
Eh ben, bon week-end pour France 2. Son Fort Boyard, exceptionnellement programmé vendredi, est en tête des audiences. Par ailleurs, faible ce soir-là, avec 14% du public télé. Toutes les autres chaînes historiques sont ensuite dans un mouchoir de poche. Mais c'est TF1 qui ferme la marche avec Secret Story, qui connaît son pire démarrage avec 2 100 000 fidèles seulement, et moins de 13% des téléspectateurs. TF1 voit tout de même des raisons d'espérer dans le fait que l'émission a généré 700 000 tweets et qu'elle a séduit 42% des 15-24 ans. Samedi, autre ballon d'oxygène pour la 2 avec le match France-Angleterre, rugby, qui attire 4 300 000 rugbyphiles à 20h55. 5 2 en fin de rencontre, en tête devant TF1 et sa spéciale Nos chers voisins, qui séduit 18% du public et 3 millions de fidèles, mais nettement en tête, là encore, sur les 4-14 ans. Quant ailleurs, victoire revanche pour la Une, victoire sans surprise de l'adaptation de Boule et Bill. 4 700 000 amateurs de Cooker étaient sur TF1. Enfin, une petite niche de bonheur pour elle.
Ça en dit beaucoup quand même sur notre pays. En fait, si je comprends bien, France 2, le match est regardé une fois qu'on comprend que les Français sont en train de gagner. Nous sommes un grand peuple de supporters et nous n'intervenons dans les guerres que pour les gagner.
Voilà.
Alors, puisqu'on parle audience, Laurent Barcic, bonjour.
Bonjour.
Je me tourne avec plaisir vers vous. TF1 a enregistré en juillet la plus mauvaise audience de son histoire. Et ça ne semble pas s'arranger, on vient d'en avoir la preuve. En août, puisque pas plus tard que samedi soir, à peine 100 000 téléspectateurs séparaient les journaux télévisés de la 1 et de la 2.
Oui, 97 000 téléspectateurs d'écart, effectivement. 4 millions et 26% de part d'audience pour TF1, 3 910 000 pour France 2, 25,6% de part d'audience, c'est un mouchoir de poche. Et ce n'est pas un incident de parcours. Depuis un an, l'écart entre la 1 et la 2 ne cesse de se réduire. D'abord, TF1 souffre d'une chose dont France 2 ne souffre pas, ou moins. Le public du 20h de TF1 a en moyenne 51 ans. Celui de France 2 dépasse les 60 ans. L'un zappe, l'autre pas. Quand on a 60 ans, c'est comme ça, on zappe moins. Et si on regarde les courbes d'audience maintenant, le 20h de TF1, en temps normal, il démarre assez fort, pour perdre ensuite des téléspectateurs au fur et à mesure. France 2, c'est l'inverse. Ça démarre assez bas et ça monte tout au long du journal. Or, ces derniers mois, depuis le retour de Nagui avant le 20h, l'avant 20h de France 2 est fort. Donc la 2 démarre son 20h plus fortement, puis soit l'audience est stable, soit parfois elle gagne des téléspectateurs. Celui de la 1, vous me suivez, démarre bas, oui. Car son avant 20h est bas. Puis tout au long du journal, bah, ça part, ça vient, ça s'en va et ça revient pas toujours. L'avant JT n'offre pas à la 1 un réservoir suffisant.
Ça veut dire que le reste de la grille se porte mal aussi.
Alors, vous l'avez dit, TF1 a enregistré en juillet la plus mauvaise audience de son histoire. 11e mois de baisse d'affilée, 20,5% de part d'audience, soit une baisse de 3,2 points en un an. Mais attention, en 2014, il y avait la Coupe du Monde de foot. 9 matchs avec une moyenne de 11 millions de téléspectateurs. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Mais quand même, cette année, TF1 aurait pu, aurait dû compter sur 2 ou 3 nouveautés qui se sont révélées être des échecs. Mmh. Le premier, Masterchef, 2,7 millions, 13,6% de part d'audience, relégué sur NT1. Il n'y a pas que ça. L'absence d'un jeu d'aventure. Souvenez-vous de Drop, il était destiné à une période estivale. En matière de nouveautés, la Une aurait pu et aurait dû et avait sûrement prévu de miser sur un avant 20h renouvelé. Le nouveau jeu de Christophe de Chavannes, Wishlist, moyenne 20,8% de PDA. C'est honorable, mais ce ne sont pas des étincelles. Par contre, celui qui ne reviendra pas, c'est Boom, animé par Vincent Lagaffe depuis mi-août, 19% de part d'audience. Le 7 septembre, il sera remplacé par Monnaie Droite.
Juste une question, le mois de juillet, c'est un mois test ou est-ce que ce n'est pas quand même un peu particulier par rapport à l'analyse que vous êtes en train de nous faire?
Ce sont des mois qui sont...
On est en vacances, non?
Il n'y a pas d'attitude particulière pendant les mois de juillet et août. Les gens sont un peu plus volages, certes, mais ça reste quand même des rendez-vous essentiels.
Alors du coup, comment TF1 peut-elle réagir?
En changeant, et vite, dès le 31 août, on va découvrir un nouveau plateau du JT, par exemple. Mais pas seulement. Depuis plusieurs mois, la direction de l'info travaille à une nouvelle formule du 20h. L'idée, c'est pas seulement de gagner des téléspectateurs, il faut aussi les garder. Mm-hmm. Il va y avoir de l'infographie plus présente, une partie magazine qui va être musclée, surtout un rythme de journal totalement différent. La direction de TF1 va dévoiler ça cette semaine. Il faut aussi préciser une chose, c'est que pour l'instant, TF1 reste quand même la chaîne leader. Et puis arrive... Ça va être la bouffée d'air d'oxygène pour eux, la Coupe du Monde de rugby et puis des fictions de prestige.
Merci beaucoup et dans un instant, on retrouve un nouveau rendez-vous sur l'antenne d'RTL et dans Laissez-vous tenter. Ce sera avec Charlotte Arrigoni et les Express de Laissez-vous tenter. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
9h15 et un nouveau rendez-vous maintenant dans les Express de Laissez-vous tenter. Ce sont les dernières informations du service culture qui nous sont livrées par Charlotte Arrigoni. Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Avec pour commencer ce matin une cérémonie à huis clos à France Télévisions.
Ah oui, elle aura lieu dans une heure exactement à 10h. Ce sera la passation de pouvoir entre Rémi Fimelin et Delphine Ernotte, première femme aux commandes du service public. Son mandat va durer 5 ans. La cérémonie sera plutôt intimiste. Seuls les cadres du groupe, une centaine, seront présents. Il n'y aura pas de prise de parole devant le personnel. Et par ailleurs, on apprend ce matin dans le Figaro que Rodolphe Belmer va venir gonfler l'équipe. L'ancien dirigeant de Canal+ va créer et animer un comité d'orientation stratégique pour le groupe public.
Ce sera un team à 100 alors.
Vous avez bien sûr reconnu le petit oiseau de tweet est permis. Ah bon, c'est oui, le tweet de la nuit. De la nuit d'ailleurs, de la nuit. Michel
c'est moi la nuit.
De la nuit. Michel Polnareff confirme que Renault est bien en studio et précisément à ce 10CP à Bruxelles. Renault travaille, je lui souhaite tout le meilleur, écrit Polnareff. En juin, Renault avait annoncé sur RTL qu'il sortira un album à la rentrée. Eh bien, ça se précise. Elle, son album cartonne depuis un petit moment. Déjà, c'est Louane.
C'est le jour.
Classement officiel des ventes de disques, Chambre 12 est numéro 1 du top album depuis le 1er juillet. En moins de 2 mois, la demi-finaliste de The Voice en a vendu plus de 112 000 exemplaires. Et puis pour terminer, début de tournage sous la pluie, ce lundi de Cézanne et moi de Daniel Thompson en région parisienne. L'histoire d'une longue amitié entre le peintre et l'écrivain Émile Zola. C'est Guillaume Gallienne qui incarnera Cézanne. Guillaume Canet, lui, prendra la plume d'Émile Zola.
Merci Charlotte. On passe maintenant à la musique. 4 mois après avoir remporté la 4e saison de The Voice, Lilian Renaud vient donc de dévoiler son premier single, Steven Bell.
Oui, le jeune homme de 23 ans n'a pas perdu de temps. À l'image de Kenji Girac l'an dernier, le talent de Zazie veut surfer sur sa victoire depuis le début de l'été. Il est en studio, il peaufine actuellement les 12 titres de son album. Le tout premier extrait est disponible en téléchargement depuis ce week-end. J'ai joint Lilian Renaud qui nous présente ce morceau intitulé « Promis juré » qu'il a co-composé.
Cette chanson, elle est née en fait en collaboration avec le réalisateur de mon album. Je trouvais le thème plutôt fédérateur de dire premier juré dans un refrain. C'était quelque chose d'assez universel en fait. Qui dans sa vie n'a jamais dit premier juré à quelqu'un? Et voilà, c'est peut-être une promesse que je me fais à moi-même aussi. Voilà, en disant premier juré, tout ira mieux demain, quoi. Donc c'est un message d'espoir. Et il me semble très important d'être optimiste. Les top courses ne sont pas forcément les plus évidents pour tout le monde. Et voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai envie d'apporter, quoi, sans aucune prétention. Je pense que j'ai pas le pouvoir de changer le monde, mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'apporter de la simplicité, comme à l'image de ce texte, en fait.
Combien de navires ont pris l'eau avant de toucher le rivage? Combien de soupirs, de sanglots avant de guérir nos visages? L'adversité écorche nos rêves, qui trace nos parcours, nos... Et pour qu'un nouveau jour se lève, partir avant qu'il soit trop tard, promis juré. Tout ira mieux demain. À l'abri des regrets, attendons.
Premier juré, premier extrait pop folk de Lilian Renault, le gagnant de The Voice, qui opte pour un registre plutôt efficace. Le gimmick des chœurs est assez accrocheur.
Alors c'est vrai que c'est plutôt réussi. Est-ce que Lilian vous a dit à quoi va ressembler son premier album, Steven?
Ce sera assez proche de cette chanson, m'a promis l'ancien fromager originaire de Franche-Comté. Lilian Renault a coécrit la plupart des chansons de ce disque à paraître avant la fin de l'année.
Je pense que Premier Juré indique quand même bien la couleur musicale assez nord-américaine, folk, voilà, percussion, banjo, beaucoup de violon, guitare acoustique. Ça va être un album très organique, très mélodique en fait. Voilà. Moi j'aime bien les belles mélodies plutôt simples sans aller chercher trop compliqué dans les accords. Ouais, je pense qu'on peut espérer une sortie avant Noël. Ouais.
Promis juré, la toute première chanson du gagnant de The Voice 4 est disponible dès à présent. J'ai vérifié, c'est déjà 12e des ventes sur iTunes. Pas mal.
Toutes les infos de Steven Bellery pour la musique. Bernard Lehu, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est la rentrée également dans les librairies avec ce chiffre que l'on retiendra, 589 nouveaux romans.
Oui, alors c'est toujours impressionnant dit comme ça, mais c'est un chiffre en baisse tout de même, moins 3% par rapport à l'an dernier. Les éditeurs deviennent un petit peu plus raisonnables.
Dans les semaines à venir, vous nous aiderez à faire le tri, mais d'ores et déjà, quels sont les livres à ne pas manquer, Bernard?
Ah ben alors, les fans d'Amélie Nothomb vont se ruer, bien sûr, sur son 24e roman, 24e. Le crime du comte Neuville, une voyante annonce à un aristocrate qu'il va assassiner l'un des convives lors de sa prochaine garden party. C'est une fable tragicomique dans laquelle Amélie Nothomb mêle comme personne la férocité à la légèreté. Dommage que l'ensemble laisse l'impression, comme souvent, d'avoir été écrit trop vite. Amélie, s'il vous plaît, ne faites pas un roman par an. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Le message sera entendu, Amélie Nothomb.
J'en doute.
Qui en tout cas sait de quoi elle parle quand elle s'intéresse à l'aristocratie, puisque le roi des Belges lui a donné cet été le titre de baronne.
Et oui, la baronne Amélie. Alors, Yves, si vous m'y autorisez, moi j'attribuerais le titre de reine de la rentrée à Delphine de Vigan, 4 ans après son best-seller « Rien ne s'oppose à la nuit ». Delphine de Vigan signe un livre vraiment exceptionnel, son titre « D'après, une histoire vraie ».
Alors, n'en dites pas plus, Bernard, parce que Delphine de Vigan sera en avant-première, l'invité demain matin de Laissez-vous tenter, à la veille donc de la sortie de son roman.
Oui, et on s'en réjouit. Oui. Alors, autre réussite de la rentrée, le nouveau livre de Christine Angot, Un amour impossible. Alors là, je dois avouer que Angot n'a jamais été ma tasse de thé. Eh bien, pour la première fois, Christine Angot m'a touché, ému, convaincu avec ce texte apaisé consacré à sa mère.
Et là aussi, on aura l'occasion d'en reparler avec Christine Angot puisque nous la recevrons la semaine prochaine. Pour l'instant, vous avez mentionné uniquement des auteurs féminins. Où sont passés les hommes?
Rassurez-vous.
Où sont les hommes?
Ils sont là, à commencer par Yasmina Khadra dans La dernière nuit du Raïs, l'auteur des Hirondelles de Kaboul. plonge dans le cerveau de Kadhafi et raconte les dernières heures du dictateur libyen. Alors, c'était gonflé. Yasmina Kadra s'en sort avec la mention bien. Et puis, on a évoqué il y a un instant la mère à propos de Christine Angot. Eh bien, un autre livre très réussi est consacré au père, celui de Sorge Chalandon, un homme affabulateur jusqu'à la folie pour son malheur et celui des siens, mais que Sorge Chalandon a aimé en dépit de tout. On vous reparlera également très vite de ce livre.
Merveilleux écrivain.
Ouais, son titre, Profession du père.
Alors je sais qu'un ouvrage vous a bluffé par sa démesure.
Oui, et son érudition absolument vertigineuse, Boussole de Mathias Sénard. Alors le romancier a toujours été passionné par les liens entre l'Occident et l'Orient. Mathias Sénard raconte ici la fascination des artistes européens du 19e siècle, notamment pour le raffinement et la richesse de la culture arabe. Eh bien, un rappel ô combien opportun, alors que la folie djihadiste tente aujourd'hui de supplanter la haine à l'échange avec l'autre. On a eu encore un exemple ce matin avec la destruction du temple de Palmyre. Ça s'appelle donc Boussole de Mathias Sénard, et ça pourrait bien être, à mon avis, un sérieux prétendant au prix Goncourt.
Enfin, les deux romans best-sellers de cette rentrée seront peut-être des polars.
Eh ben oui, alors c'était inhabituel, parce que la rentrée littéraire n'est pas forcément la grande saison des polars.
Non, c'est
alors,
plutôt pour l'été, ça.
Il y a tout d'abord le nouveau Jean-Christophe Granger, Lontano, près de 800 pages, un gros pavé, parution le 9 septembre, et puis le quatrième tome de Millennium, la série au succès planétaire du défunt Stieg Larsson, confié par ses héritiers à un autre auteur suédois, David Lagercrantz, et vous l'entendrez en exclusivité, cet auteur, dans Laissez-vous tenter, jeudi, le jour même de la sortie mondiale du tome 4 de Millennium.
Bah dites donc, ça va être riche tout ça. Je rappelle que donc demain, nous avons rendez-vous en direct avec Delphine De Vigan. Voilà, les express. On a encore le temps de glisser une ou deux infos.
On y va. Allez, est-ce que vous vous souvenez, Yves, de Prodige sur France 2? Émission qui réunissait des enfants de 7 à 16 ans dans le domaine de la musique classique. Un rendez-vous qui a quand même réuni 4 millions de téléspectateurs un 27 décembre. Alors, la bonne nouvelle, d'ailleurs il y en a deux, c'est que la chaîne s'apprête à tourner deux nouvelles émissions puisqu'on a le temps. La première verra s'associer des jeunes prodiges avec des stars qui joueront ensemble. Et puis la deuxième, eh bien, elle sera la même que l'an passé. Tournage prévu du 8 au 12 septembre à Albi, dans le Tarn. Par ailleurs, à noter que la gagnante de l'an dernier, Camille Berthollet, eh bien, sortira son premier disque cet automne.
Merci beaucoup, Charlotte Arrigoni, qui est la petite nouvelle de la bande. Donc, on a réussi à la glisser deux fois.
Et, ouais, c'est étonnant.
C'est gentil de votre part.
Oui, c'est un joli bizutage, ça.
C'est un agréable bizutage.
Et elle m'a traité de nouille.
Non, ne le prenez pas en mauvaise part. Dans quelques instants, vous saurez si vous avez gagné des places pour découvrir la grande palme d'or du film de Jacques Audiard qui sort mercredi au cinéma, son titre Dipan. Il fallait pour cela répondre à la question que vous a posée Stéphane, qui était: Jacques Audiard est-il le 7e ou le 10e réalisateur français à avoir reçu cette palme d'or? Réponse dans un instant.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Alors, je fais un petit peu durer le suspense avant de vous distribuer vos places de cinéma pour aller voir Dipan. Avec une information qui vient de tomber, c'est l'ouverture de la bourse de Paris. Moins 3,57% à 4465 points. Moins 3,57%. Ça confirme ce qui faisait la une de nos confrères des Échos ce matin. Bourse, pourquoi la peur revient sur les marchés? Visiblement, c'est le cas. Le CAC 40 donc est en train de très très mal commencer la semaine après avoir réalisé la semaine passée sa pire performance depuis décembre 2014. On va vous tenir bien entendu informé pendant toute cette matinée et notamment dans l'édition d'RTL Midi. On en vient donc maintenant enfin aux bonnes nouvelles avec ces places. Alors Stéphane Boutsock, combien sont-ils à avoir obtenu la palme d'or? Je parle évidemment de nos réalisateurs français.
Alors après Louis Malle, après Jacques Demy, après Claude Lelouch, après Maurice Pialat, après Laurent Cantet, après Abdelatif Kechiche, Jacques Audiard est le 7e français à décrocher une palme d'or à Cannes.
Bah, c'était bien agréable de redécouvrir cette liste de metteurs en scène tout à fait talentueux, avec lequel il entretient, on l'a bien compris dans l'interview qu'il vous a accordé tout à l'heure, des rapports
respectueux mais distants. Bien ça.
Respectueux mais distants. Merci infiniment à toute l'équipe. Et puis il nous reste maintenant tout simplement à faire un grand bonjour à mon Julien. Comment va-t-il, mon Julien?
Mais quel honneur, Yves, quel honneur de parler à ce que j'appelle enfin une vraie star. Car publier chaque matin son bulletin de santé dans le Parisien. Mais même les plus grands ne le font pas une page entière chaque matin. Demain, on vous annoncera, il s'est bien levé, il n'avait pas mal à la tête. Après-demain, il a bien mangé, il digère bien. C'est formidable, ça.
En tout cas, on est bien content.
Mais
oui.
Mais franchement.
Je savais que ça ne vous déplairait pas et que ça ne vous échapperait pas, surtout.
En tout cas, quel plaisir de vous avoir, de vous écouter ce matin, mon cher Yves, et toute votre équipe.
Écoutez,
bonne année.
Très heureux.
Bonne année. Attendez.
Il est malade.
Bonne année de radio.